Bonjour Thomas Gadisseux.
Bonjour à toutes et tous.
Il était surnommé Dany le Rouge. En mai 68, il a gardé toute sa verve pour commenter la politique. Daniel Cohn-Bendit est avec nous en direct. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez été député européen pour les Verts et vous avez été un soutien d'Emmanuel Macron lors de son élection en 2017. Que pensez du débat de hier soir? C'est ce que nous allons voir ensemble, Thomas.
Et ce débat, dès 20h, commence logiquement par un générique qu'on va entendre tout de suite. La candidate Le Pen ne comprend pas ce qui se passe. Elle prend la parole, en fait, le micro est en sourdine, écoutez.
Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple.
Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peine commencé, vous interrompre?
Je vais démarrer avant même que...
Mais ça n'est pas grave. Vous avez démarré sur la musique, vous pouvez reprendre.
Un faux départ. En sport, c'est une disqualification. Alors, Daniel Cohn-Bendit, première question, est-ce que vous diriez ce matin que la candidate Le Pen est d'ores et déjà disqualifiée de ce second tour?
Elle n'est pas disqualifiée puisqu'elle sera sur le bulletin de vote, mais si dans le débat hier, elle voulait démontrer qu'elle était présidentiable, elle n'a pas réussi. Elle n'est pas présidentiable. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas, je ne sais pas, des millions de voix, mais si on juge le débat, si on juge non seulement la qualité, mais ce qu'elle a apporté, Marine Le Pen est une... bonne candidate qui pourrait être députée, etc. Mais quand moi je me projette l'idée de qui peut être présidentiable, elle ne l'est pas.
On l'avait dit bien préparé, vous avez été surpris de son impréparation du coup dans ce débat sur les dossiers?
Mais c'est pas de son impréparation, c'est comme ses projets ne tiennent pas debout, elle peut se préparer comme on veut. On l'a vu dès le début où elle a été étouffée. Sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui est quand même sa stratégie. On dit voilà, elle est préparée, elle a fait de ce débat présidentiel un débat sur le pouvoir d'achat. Mais ce qu'elle propose est ridicule et quand Emmanuel Macron à un moment balaye tout d'une main, il dit mais regardez, nous quatre ici, en parlant d'elle, de lui et des deux animateurs, on n'a pas besoin qu'on nous baisse la TVA. Nous, on peut très bien, donc ce n'est baisser la TVA, c'est justement ne pas bien cibler pour protéger ceux qui ont des difficultés et non pas de protéger tout le monde et n'importe qui. Et dès le début, on voit que ces propositions ne tiennent pas debout. Donc c'est pas qu'elle n'est pas bien préparée, c'est qu'elle n'a, allez, je le dirais, rien à dire vraiment de fondamentalement qui tiennent la route.
Alors vous êtes un proche, en tout cas vous avez soutenu Emmanuel Macron lors de son élection présidentielle en 2017. Vous avez d'ailleurs refusé un de ses postes ministériels, on le rappelle, hein, Daniel Cohn-Bendit. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude du président candidat hier soir?
Écoutez, c'est pas facile, parce que quand à un moment vous sentez que en face de vous, ça tient pas la route, vous commencez à vous ennuyer. Écoutez, quand vous jouez au foot et que vous avez marqué 5 buts et qu'il reste toujours 3 quarts d'heure, 1 heure à jouer, vous en avez un peu ras-le-bol. Hein, vous dites, c'est pas la peine. C'est là où, effectivement, on a vu qu'il se relâchait et qu'il voyait les choses de haut. Alors, certains le lui reprochent, mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Quand dans un débat, vous avez quelqu'un qui dit n'importe quoi, alors vous me dites je suis méchant. Je vais vous donner un exemple.
Pas méchant, futile. Mais arrogant, c'est ce qui lui a été reproché.
Oui, mais avant, je vous donne un exemple futile. À un moment, il parle de l'école, et Macron dit nous avons dédoublé les classes dans les quartiers difficiles. Elle dit oui, vous avez fait ça dans les quartiers, mais pas dans la France rurale. Et là, il est d'abord étonné. Et puis il dit, mais enfin madame, ne dites pas n'importe quoi, parce que elle, idéologiquement, elle n'ose même pas dire, vous avez fait ça pour les émigrés, mais pas pour les Français. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'il y a derrière sa remarque. Mais il lui dit, mais écoutez madame, dans la France rurale, il n'y a pas trop d'élèves dans une classe. Il y a moins d'élèves, donc on n'a pas à dédoubler les classes. C'est d'une simplicité incroyable. Donc sa remarque à elle est d'une futilité incroyable, parce que c'est vrai que si l'on veut soutenir des élèves, c'est dans les lieux où il y a trop d'élèves dans une classe. Et c'est la montre qu'elle ne comprend pas, en fait, de quoi il s'agit et qu'elle parle idéologiquement. Elle dit, vous faites pour les émigrés et vous faites pas pour les Français.
Vous dénoncez, Daniel Cohn-Bendit, la futilité de son programme. Se pose la question de l'utilité de débattre contre l'extrême droite. En 2002, Chirac l'avait refusé. Est-ce que ce n'est plus un débat ? En 2022, il faut d'office débattre avec l'extrême droite, même si on arrive à ce constat de programmes qui ne tiennent pas la route, selon vous.
Oui, il faut débattre. Je crois que, pour la simple raison que c'est comme ça, quand une candidate, alors je sais pas, qui fait 40% plus X moins X, vous ne pouvez pas ne pas débattre. Au moment où de Jacques Chirac, quand même, disons, Jean-Marie Le Pen a fait 16-17%, vous pouvez encore défendre. Mais c'est comme ça, l'extrême droite fait partie du paysage politique français, et ce n'est pas en ne pas débattant que vous protégez un pays de l'extrême droite. C'est malheureusement, c'est ça. Et alors, comment protéger une société, un pays, c'est peut-être mal dit, une société du venin de l'extrême droite, de l'exclusion, du racisme, etc. On a vu ça, et c'est ce qui est difficile, dans le débat sur le foulard. Le débat sur le foulard, vous savez que Marine Le Pen veut interdire le port du foulard dans la rue. C'était un débat surréaliste, surréaliste, parce que quoi, Macron lui dit, mais enfin madame, on serait le seul pays au monde à faire cela. Alors vous me dites, à quoi sert ce débat? Au moins à essayer de faire comprendre à ceux qui regardent ce débat ou qui l'écoutent, qu'il y a des limites qu'il faut décrire, et je crois que là, on a vu en tout cas qu'il y a deux Frances qui s'opposent. Une France qui pense qu'on peut faire n'importe quoi contre, disons, une certaine contre une religion au nom d'un combat contre l'islamisme, et d'autre, une France plurielle qui dit qu'il faut lutter contre l'islamisme, mais on n'a pas le droit dans une démocratie de faire n'importe quoi.
C'était l'un des moments forts de ce débat. Il y en a eu un autre, Daniel Cohn-Bendit, après 2 heures seulement, diront certains, lorsqu'arrive le climat.
Là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique, donc c'est net.
Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite.
Quelles sont les ambitions écologiques d'Emmanuel Macron, Daniel Cohn-Bendit ? Est-il un climato-hypocrite, pour reprendre ce terme de Marine Le Pen ?
Non, je crois qu'il l'a dit dans un interview, je ne sais plus quand. Je crois que là, il apprend beaucoup, et alors les écolos disent, par exemple, en France, et pas assez vite. C'est vrai que il évolue, et c'est vrai que dans sa conception politique, le changement de paradigme qu'impose la transition écologique, qu'impose le débat sur le réchauffement climatique, cette évolution du paradigme de la politique, eh bien, qu'un, il y va. Ce qui aujourd'hui oppose les écolos, purs et durs à Emmanuel Macron, c'est sur le nucléaire. Je crois que c'est un faux débat, c'est un long débat. En France, de toute façon, dans les 35 prochaines années, on ne sortira pas du nucléaire. Et même s'il veut construire, ne pas construire de nouvelles centrales, nous savons, et d'ailleurs j'ai vu les écolos en Belgique,
ça anime aussi le débat chez nous, on vous rassure. Hein,
comment ?
Ça anime aussi le débat chez nous, on vous rassure.
Bien sûr, je l'ai vu. Et pourquoi ? Parce que moi j'ai relu les textes que nous avons écrits dans les années 70 contre le nucléaire. Nos textes à nous en Allemagne. Et ce qui est frappant, si nous prenons nos textes des années 70 contre le nucléaire, et c'était juste contre le danger, les déchets, la centralisation, il n'y a pas un mot sur le climat. Pas un mot. Ce n'était pas dans nos têtes.
Mais pour revenir à cette ambition justement climatique, le candidat Mélenchon a raflé quand même ce vote vert durant le premier tour. Est-ce que ça va être un enjeu pour, à la fois dimanche, mais aussi pour les législatives, d'essayer d'aller séduire cet électorat écolo en Flandre, en France, pardon, qui n'a pas forcément séduit le candidat des Verts d'ailleurs?
Oui, parce qu'il y a eu un moment, un tour de passe-passe de Mélenchon, qui est sur le vote utile, qui a fait que le rêve de pas mal de gens qui ont voté au premier tour de gauche, c'est que peut-être on peut s'éviter Marine Le Pen au deuxième tour en mettant Mélenchon au deuxième tour. Et donc, c'est là-dessus que Mélenchon donc a su raconter une histoire. Il est très brillant. Il est très brillant malgré tous les déficits. Et moi, je ne voterai jamais pour Mélenchon. Pour la simple raison que, comme toutes ces positions internationales contre l'Europe, etc., je ne veux pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que l'écologie sera, pour les législatives, un marqueur important du débat politique. Et je crois que le grand problème de la France, c'est là qu'il faut en venir, le grand problème de la France, c'est que le scrutin majoritaire à deux tours étouffe la démocratie. Parce que en France, on ne sait pas ce que c'est que négocier, on ne sait pas ce que c'est qu'un compromis. Alors vous allez me dire, oh là là, mais regardez chez nous en Belgique, je l'avoue, la Belgique n'est pas toujours un bon exemple.
Mais c'était ma question quand même, Daniel Cohn-Bendit. Qu'est-ce que ça traduit du climat politique en France, mais aussi en Europe, cette campagne, avec l'effondrement des partis traditionnels, la gauche, la droite, mais aussi le parti des Verts en France? Comment vous voyez cette séquence-là et qu'est-ce qu'elle augure pour la politique en Europe de manière générale?
Un grand danger, la simplification populiste. C'est-à-dire que... alors, je veux dire, vous avez maintenant deux grands pays où l'évolution est différente. Vous avez en Allemagne une stabilité politique avec des partis traditionnels qui baissent, mais qui tiennent, avec quand même un parti écologiste qui se renforce, et surtout, vous les avez après, les écologistes, par exemple, dans les postes, disons, déterminants du nouveau gouvernement, c'est-à-dire l'économie et la transition écologique et les affaires étrangères. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que les deux ministres les plus populaires en Allemagne aujourd'hui sont les deux ministres verts. Donc je veux dire par là que la France, il faut revenir à essayer de donner une dimension la proportionnelle, le vote à la proportionnelle, une dimension de la qualité du débat politique et de... Le prochain quinquennat en France doit être un quinquennat de la négociation et du compromis. Si Emmanuel Macron n'arrive pas à cela, il affrontera en permanence 60% de la société qui sera toujours contre lui.
Le deuxième tour des élections présidentielles, c'est donc ce dimanche. Daniel Cohn-Bendit, désolé, il est 8h. On signalerait aussi que selon un sondage réalisé par Elabe hier soir pour BFM TV, 59% des téléspectateurs sondés ont jugé que c'était Emmanuel Macron qui avait été plus convaincant que Marine Le Pen. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir été avec nous ce matin.